C'est l'heure de Plan B, l'émission du Bistrot Mémoire Rennais.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Plan B, l'émission radio du Bistrot Mémoire Rennais qui vous parle d'un sujet qui nous concerne tous, les troubles de la mémoire. Que vous soyez distrait ou diagnostiqué, aidant ou bienveillant ou tout simplement engagé sur les questions de citoyenneté et d'inclusion, sur Plan B, on partage ensemble les trucs et astuces du quotidien, les relais et ressources sur le territoire et tout un tas d'initiatives inspirantes pour les personnes vivant avec une démence, pour que vous puissiez porter un nouveau regard sur les maladies neuroévolutives.
Plan B, l'émission du Bistrot Mémoire Rennais.
Vivre avec une maladie neuroévolutive en période Covid-19, c'est le thème de l'émission que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, en première partie d'émission, Amandine Bénard, neuropsychologue au BMR, et Morgane Froir, neurologue en consultation mémoire au pôle gériatrique de Champy, prendront le temps de nous expliquer ce qu'est vivre avec une maladie neuroévolutive en temps normal. Nous ferons un point santé publique avec Anna El-Kadioui-Alidrissi, qui est allée à la rencontre de Pierre-Yves Malot, psychologue au CHU de Rennes et président de l'association Psychologie et Vieillissement. Au programme également, la playlist d'Eva Leray, en stage au Bistrot Mémoire, qui ayant eu connaissance du thème, s'est arrangée pour maintenir vos constantes et vous garder parmi nous. Et enfin, en dernière partie d'émission, nous retrouverons Alina Jonxi-Menuet, qui partagera avec nous le témoignage d'un ambassadeur et de leurs aidants dans cette période si particulière, notamment au travers de la question des masques. Vous verrez. Vous êtes sur Canal B, vous écoutez Plan B, l'émission du Bistrot Mémoire Rennais. Alors oui, ça fait plus d'un an qu'on vous parle du coronavirus matin, midi et soir. Et là, vous vous dites « Non, pitié !» Qu'on le veuille ou non, il va falloir vivre avec ce virus, il va falloir l'accepter. Le monde d'avant, c'est fini. Et j'ai bien peur que le monde d'après, eh bien, c'est pas vraiment celui qu'on avait imaginé non plus. C'est un peu mal engagé. Amandine, je ne vous en ai pas encore parlé, mais depuis quelques mois, j'ai le sentiment d'être un peu bloquée sur le jour de la marmotte. Comme Bill Murray dans le film Un jour sans fin.
Debout les campeurs et haut les cœurs, oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. C'est le jour de la marmotte. Then put your little hand in mine. C'est le jour de la marmotte. Then put your little hand in mine.
There ain't no hill of a mountain. Then put your little hand in mine. Vous l'avez vu ce film ?
Ah non Samia, vous savez bien que j'étais pas née en 1993.
Merci Anna.
Bah moi j'étais née, j'en ai profité pendant le confinement pour le voir, le revoir et encore le voir.
Alina, je sais pas s'il passait en Pologne à l'époque.
Ah oui, tout à fait, je l'aime beaucoup d'ailleurs.
Condamné à revivre indéfiniment le 16 mars, le jour du pangolin.
Le coronavirus.
Le coronavirus. Le coronavirus.
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 Covid-19.
Crise épidémique. Un état d'urgence sanitaire.
Conseil de défense, virus, conseil scientifique, Covid, pandémie, gestes barrières, port du masque, la vaccination, confinement.
Nous sommes en guerre.
J'ai perdu la notion du temps. J'ai envie de sortir de chez moi, déambuler juste pour marcher. J'ai quelques comportements moteurs aberrants que je garderai pour moi, histoire de rester crédible pour le reste de l'émission. Un sentiment de solitude et d'isolement aussi. Amandine, c'est grave ce qu'il m'arrive ?
Rassurez-vous Samia, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont les mêmes symptômes que vous.
Eh bien justement Amandine, parlons-en.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
Et maintenant, la rubrique d'Amandine Bénard, les troubles de la mémoire, parlons-en.
Je vous propose d'écouter l'enregistrement que j'ai fait avec le docteur Morgane Froir il y a quelques jours.
Dans notre chronique, nous allons nous intéresser aux maladies neuroévolutives grâce au témoignage du docteur Morgane Froir que j'ai pu rencontrer il y a quelques jours. Bonjour docteur Froir, vous êtes neurologue au sein du pôle gériatrique à Champy.
Bonjour Madame Bénard, merci de m'avoir invitée. Effectivement, je travaille depuis le mois d'octobre à Champy au pôle gériatrique en tant que neurologue.
L'association du Bistre Mémoire Rennais s'intéresse particulièrement aux personnes qui sont atteintes d'une maladie neuroévolutive et puis aussi leurs proches. Lors de notre première émission, le 27 février dernier, nous avons pu écouter le micro-trottoir d'Anna. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, si vous souhaitez le réécouter, vous pouvez aller sur le podcast qui est sur canalb.fr ou sur notre site, le site du Bistre Mémoire Rennais. Donc à travers la parole de ces Rennais et ces Rennaises, nous avons fait le constat que beaucoup de personnes ne connaissaient pas ce terme de maladie neuroévolutive. Pourriez-vous nous le définir, qu'on comprenne un peu mieux ce que ça signifie ce terme ?
En fait, souvent, on utilise un autre terme qui est celui de maladie neurodégénérative, en tout cas dans le milieu médical. Et effectivement, c'est un bien vilain mot que ce neurodégénératif. Ce qui veut dire, c'est que ça concerne des maladies du système nerveux central, du cerveau, de la moelle, et que l'évolution est chronique et se fait de façon sans agent extérieur, sans agent infectieux. C'est pas une méningite, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas non plus de traumatisme, il n'y a pas de lésion vasculaire, ce n'est pas lié à des attaques. C'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Souvent d'ailleurs sans qu'on ait le point de départ exact, à l'heure actuelle en tout cas. Voilà, c'est par opposition aussi aux autres causes qu'on a retenu ce terme. Ça recoupe des maladies assez diverses, on en reparlera peut-être. C'est probablement un mot à éviter parce que quand on le dit en consultation, c'est entendu de façon assez blessante même par les gens. Et effectivement, le terme de neuroévolutif est plus séduisant, si je puis dire, et probablement plus à utiliser, mais spontanément, dans le milieu médical, on utilise souvent neurodégénératif.
Et alors, ces maladies neuroévolutives, il y en a des différentes ou alors c'est la même pour tous ?
Alors non, il y en a même plusieurs et très différentes les unes des autres. Les grandes connues, ce serait la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, mais il y a aussi des maladies plus rares, comme la sclérose latérale amyotrophique, et on rend de plus en plus la sclérose en plaques dans ce groupe de pathologies. Donc là, ce sont des sujets qui sont beaucoup plus jeunes. On ne s'attend pas forcément à les mettre dans le même grand groupe. Donc en fait, c'est un groupe très hétérogène de maladies neurologiques. L'intérêt peut-être aussi de les regrouper, c'est que ce sont, je pense en termes de santé publique, ça permet il y a eu ces plans maladies neurodégénératives, peut-être que ça permet de donner une certaine visibilité à des maladies qui sont parfois relativement rares, enfin certaines formes d'entre elles, et du coup de peut-être avoir des actions plus coordonnées.
Et donc c'est ce que vous avez dit, elles touchent pas forcément que les personnes âgées alors du coup.
Alors elles sont malgré tout en fréquence bien plus fréquente chez le sujet âgé et bien plus fréquente avec le temps. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on a de risques d'en avoir. Mais c'est vrai que certaines d'entre elles, par exemple la sclérose en plaques, vont débuter habituellement chez un sujet jeune. 25 ans, vraiment un sujet jeune. Alors que c'est vrai que quand on dit maladie d'Alzheimer du sujet jeune, c'est avant 65 ans, donc c'est pas le même jeune, mais voilà. Et donc les formes les plus habituelles sont quand même plus fréquentes avec le temps. Il y a aussi des formes génétiques qui sont très minoritaires, 1 à 5% selon les maladies, on va dire. Mais là, qui concernent, donc qui débutent tôt, mais tôt pour une maladie d'Alzheimer, c'est 50-60 ans, ça n'est pas 25 ans non plus. C'est malgré tout, pour un sujet donné, c'est très tôt, c'est très inattendu d'avoir une telle maladie à cet âge-là, bien sûr.
Alors, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Donc, comme vous avez dit, il y en a plein de différentes. On ne va pas pouvoir toutes les aborder, mais est-ce que celles qui reviennent le plus souvent, qu'on entend le plus souvent parler, par exemple la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, et on entend aussi un peu maintenant la maladie à corps de Lévy qui revient aussi, est-ce que pour celles-ci, quels sont les principaux symptômes, sans rentrer vraiment dans les détails, mais qu'est-ce qui nous fait penser à ces maladies-là ?
Souvent, il y a un retard diagnostique et les gens font une histoire rétrospective parce que les maladies, en général, elles évoluent de façon insidieuse, elles évoluent très lentement et longtemps, les premiers symptômes vont être, qui sont discrets, c'est du détail. C'est à la chorale, j'ai pas réussi à chanter, j'ai oublié d'éteindre le gaz alors qu'il y avait le bon repas pour mes petits-enfants qui venaient et c'était un repas important. Voilà, et qu'au début, sont plutôt... rationaliser, on va dire j'étais fatiguée, j'avais... Et puis c'est l'accumulation de ces choses qui va mettre la puce à l'oreille. Et effectivement, la plainte, on va dire, de l'oubli qui est facilement identifiable. J'oublie les rendez-vous, j'oublie mes traitements, mais en fait, c'est assez rare que les gens le disent, ça c'est l'entourage qui va dire. Donc il y a l'oubli. Les gens eux-mêmes vont plutôt dire le manque du mot. Ah, je cherche les noms, c'est insupportable, d'ailleurs comme moi, là tout de suite. Mais... Alors sur les noms propres, ça c'est quelque chose qui commence à 40 ans, donc rassurons-nous tous, ça c'est pas grave. Mais le manque du mot qui peut entraîner un certain isolement, d'ailleurs ça c'est un début qu'on retrouve assez facilement. La fatigue, le manque d'envie, le changement de caractère, le changement de comportement. Là, tout ça, je vous parle de plutôt maladie d'Alzheimer. Voilà, plus envie de voir les petits-enfants, être inquiet et des visites, alors que ça faisait plaisir, et ben là, non. Et en fait, souvent, la personne va sentir que les choses se modifient sans pouvoir mettre de mots. Et du coup, les symptômes vont être très variables, mais c'est le changement qui met la puce à l'oreille. Parfois du patient, souvent de l'entourage. Après, pour ce qui est de la maladie de Parkinson, par exemple, ça va être des signes moteurs beaucoup plus évidents, le tremblement, qui va tout de suite faire penser Parkinson, alors qu'il y a bien d'autres causes de tremblement, mais auxquelles des gens pensent facilement. Mais ça peut être des choses beaucoup plus subtiles, de maladresse. Moi, j'ai une dame, elle me dit « j'arrive plus à battre mon omelette ». Donc sur des petits gestes vraiment fins, de dire « tiens, c'est plus comme avant ». Donc parfois des choses très motrices, des choses de la mémoire plus cognitive, le changement de caractère, on en a parlé, changement d'humeur, les troubles du sommeil aussi, ça c'est souvent le conjoint qui va le dire, qui va le dire, quand on va lui poser la question, il va le dire. Donc le sommeil agité, les coups, les bruits, les cris, donc ça souvent plusieurs années avant que la maladie ne commence. Il y a des choses aussi plus d'essence, il y a les pertes d'odorat, pareil, ça débute bien des années avant, souvent. Alors là, l'odorat, on en a parlé avec le Covid, mais c'est complètement autre chose. Voilà, donc effectivement, des symptômes très multiples, des évolutions souvent très à bas bruit, et qui, dans la durée, vont finir par inquiéter le sujet ou l'entourage et de mener à la consultation.
Oui, justement, quand on a ces petits, soit l'entourage, soit nous-mêmes, quand on ressent des changements comme ça, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut faire alors parce que vous avez parlé de consultation, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, bien sûr, on consulte. La première personne à voir, je dirais, c'est quand même son médecin traitant. Et puis, il y a de plus en plus des évaluations de premier recours, alors que ce soit le médecin traitant, les infirmières azalées, il y a des, sans aller sur des consultations de spécialistes d'emblée, il y a tout un maillage. Alors en ville, c'est facile d'avoir accès aux spécialistes, mais c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas en ville, c'est pas forcément vers le spécialiste du tout qu'on va se tourner. Donc il y a le médecin traitant en premier recours. Après, ça, c'est souvent il y a neurologue et gériatre. Parfois, l'âge de début rentre en jeu. Parfois aussi, l'usage du médecin, ses réseaux personnels, la facilité d'avoir un rendez-vous. Mais je pense que même si, à la fin de toute une série dont on va peut-être parler d'examens, d'évaluations, on dit qu'il n'y a pas maladie, je pense qu'effectivement, c'est bien plus pertinent et utile pour soi de consulter que d'attendre que ça aille mieux.
Oui, parce qu'en fait, consulter, ça va donner quoi ? Parce que, si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut guérir ces maladies ?
C'est une cruelle question. Alors, effectivement, guérir, on ne sait pas faire. On aimerait beaucoup, mais guérir, on ne sait pas faire. On ne sait pas pourquoi ça commence et on ne sait pas enrayer le processus. Bon. Mais il y a quand même plusieurs symptômes qui nuisent beaucoup à la qualité de vie, qu'on peut améliorer et qui valent le coup, du coup, d'être traités. Pensez aux hallucinations. Il y a un certain nombre de maladies neurologiques où on a des hallucinations visuelles. Parfois très riche, on voit des personnes, il y a des vraies scènes dans la vie, et ça peut être très étrange pour le patient et très étrange pour le conjoint à qui on dit « mais t'as vu ces gens », etc. Ça, c'est important de le dire, parce que, par exemple, il y a des médicaments qui peuvent les faire disparaître. Et ça, en qualité de vie, c'est quand même important. Les troubles, c'est vrai, du caractère, le sommeil, ça, ce sont des choses importantes. Et puis aussi, on peut jouer sur ce qui n'est pas neurodégénératif et qu'on peut améliorer. Donc, il y a tout ce qui est facteur de risque vasculaire, parce qu'on a le droit d'avoir deux maladies à la fois. En plus de la maladie neurodégénérative, des lésions vasculaires qui vont s'ajouter. Donc, on peut corriger l'alimentation, le cholestérol, le diabète, l'hypertension, tous ces facteurs qu'on connaît bien. On peut aussi, ça c'est important, ça c'est plus de la médecine, mais c'est tout aussi important pour aller bien ou mieux, avoir une activité physique. Et puis, moi, c'est pour ça aussi que je suis là. Je trouve que c'est très important d'avoir une vie sociale et un réseau. C'est vrai que nos médicaments ont des effets symptomatiques. On va corriger tel symptôme, tel embêtement, mais c'est vrai qu'on ne va pas arrêter, on ne va pas enrayer la maladie. Et du coup, ce qui est non médical prend aussi d'autant plus d'importance que la médecine est limitée. Et notamment, la lutte contre l'isolement et l'importance du réseau social. Le réseau social est important.
Tout l'aspect non médicamenteux qui est aussi important que le médicament. Parce que comme vous avez bien dit, il y a une évolution qui est lente. Donc il faut pouvoir continuer à accompagner ces personnes. On peut traiter des choses très symptomatiques avec des médicaments, mais il faut quand même trouver des solutions pour pouvoir les accompagner. Et c'est vrai que tout ce réseau est très important. Et auprès de ces consultations, on peut en prendre connaissance, parce qu'il est difficile des fois d'avoir toutes ces informations quand on ne connaît pas ces maladies. Donc c'est important d'aller consulter aussi pour ça, vous l'avez très bien expliqué, pour le fait d'avoir un premier contact avec ces réseaux qui peuvent nous apporter autre chose, qui permettent d'accompagner ces maladies sur du long terme. Tous ces réseaux là justement qui sont très importants pendant la phase du premier confinement, ils ont été à peu près tous suspendus, arrêtés. Il y a des personnes qui se sont retrouvées justement sans ces réseaux sociaux, et ces réseaux aussi d'aide qui peuvent être juste des aides à domicile, qui ne pouvaient plus venir du tout. Est-ce que vous avez eu des retours de patients, de gens qui vous ont interprété ce mal-être, ces ressentis pendant cette période-là?
Alors moi, j'ai été surprise qu'il n'y ait pas plus de plaintes, finalement. Il était nécessaire de confiner. Moi, je suis pas, j'ai pas de compétences en santé publique, et je crois qu'il n'y avait pas tellement d'autres réponses. Et voilà. Mais c'est vrai que sa réponse, elle a été globale, elle n'a pas été différenciée, elle a pas. Et alors que les gens sont, enfin, on a vraiment des populations pour qui ça a été très pénalisant. Et j'ai été surprise que finalement, ce soit pas plus. Bien sûr qu'il y a des gens qui se sont plaints ponctuellement, mais j'ai pas trouvé de rébellion contre contre le confinement dans certaines situations. Je crois malgré tout ça a été entendu, puisque je crois que pour c'est moins à l'arrêt. Enfin, on sait qu'il faut moins l'arrêter. Mais j'étais surprise par l'acceptation, en fait.
Bon, en tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations. Vous nous avez donné plein de choses qui vont pouvoir nous aider à comprendre ces maladies. Et puis, on essaiera en tout cas de continuer à les comprendre avec nos différentes chroniques à venir.
Merci Amandine pour cette rencontre avec Morgane Froire. Je rebondis sur ce côté un peu gestion de crise globale et absence de réaction, parce que cette gestion de crise politique et de communication, elle nous a un peu désemparés. C'est ce qui explique peut-être ce manque de réaction, le fait qu'on soit un peu tous désorientés et dans cette incompréhension totale de ce qu'il faut faire, pas faire, hein, que c'est utile, pas utile, autorisé, pas autorisé, et je ne vous parle pas des 50 nuances de rouge. Hein. Pour moi, ça a été une période un peu démente, hein, si je peux me permettre. Anna, avant de savoir s'il y a eu des couacs, si je deviens démente ou complotiste, on va faire une petite pause musicale avec Girls in Hawaii, avec le titre Found in the Ground. Found in the ground, picked up and threw head to the clouds, he turned around. C'était Girls in Hawaii avec le titre Found in the Ground. Vous êtes sur Canal B, vous écoutez Plan B, l'émission du Bistrot et moi Rennais. Anna, dites-moi, alors je deviens complotiste ou je perds la tête ?
Je comprends que la situation actuelle soit démentielle pour vous, au sens propre comme au sens figuré, puisque les maîtres mots étaient incertitude et adaptation. Mais je demanderai à notre invité, Pierre-Yves Malot, si le terme est approprié. Même si l'émergence de maladies épidémiques a toujours rythmé l'histoire, avec la peste, le choléra, la variole ou encore plus récemment le virus Zika ou la fièvre Ebola, l'émergence de ce virus marquera définitivement l'histoire par son ampleur, sa vitesse de diffusion et les enjeux sociaux qu'il a pu soulever et sur lesquels nous allons revenir dans ma chronique.
Et maintenant, la rubrique d'Anna El-Kadhiwi El-Idrissi, Santé publique, on vous dit tout.
Alors ce virus Covid-19, comme l'a exprimé Samia, ça fait un an qu'on entend parler de lui en boucle, dans toutes les chaînes, dans toutes les bouches et à toutes les sauces. Mais il nous a semblé important de revenir dessus, afin de mettre en lumière certains enjeux qu'il a soulevés et qui ont été très peu relayés dans les médias. Pour commencer, nous allons solliciter le point de vue psychologique de Pierre-Yves Malot, psychologue au service de médecine gériatrique, au CHU de Rennes et président de l'association Psychologie et Vieillissement. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Plan B.
C'est avec plaisir.
Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en octobre 2020 dans le cadre du colloque qui a été organisé par l'association Psychologie et Vieillissement et qui s'est intitulé « La crise sanitaire, conséquences psychologiques et organisationnelles ». Donc pour commencer, quel retour pouvez-vous nous faire sur les effets de cette crise sanitaire sur les personnes âgées et particulièrement sur les personnes ayant des maladies neuroévolutives?
Ça a été évidemment très divers selon les situations de chacun, mais ça c'est le cas dans le cadre des personnes qui ont des maladies neuroévolutives, mais aussi chez chacun d'entre nous. Pour certains, ça s'est bien passé. Pour des personnes qui déjà étaient prises un peu dans un fonctionnement un peu systématisé, où les journées se ressemblent, où, ne serait-ce que par rapport à la pathologie, ils ont besoin d'avoir un environnement structuré, de ne pas trop sortir de chez eux, d'avoir des routines d'une certaine façon. Pour eux, ça n'a pas changé fondamentalement les choses. Pour d'autres personnes qui ont des activités à l'extérieur, qui ont maintenu du lien avec du voisinage, avec des associations, parce qu'il y a des personnes qui ont des maladies neuroévolutives mais qui sont à un stade débutant de la maladie et qui continuent à être très investies, pour elles, ça a été beaucoup plus catastrophique, ça c'est sûr, parce que du coup, c'est tout ce qui les maintenait effectivement dans ce tissu social, mais aussi dans une certaine forme d'estime d'elle-même par ce qu'elle s'arrivait à faire, là ça a été beaucoup plus compliqué effectivement. Entre ces deux types de personnes, on a tout le spectre, j'ai envie de dire. Mais voilà, il n'y a pas une conséquence unique face à cette crise sanitaire. C'est sûr que les personnes qui étaient déjà plutôt casanières, au fond, l'ont plutôt bien vécu. Et je dirais même presque au contraire, l'ont vécu plutôt bien, dans le sens où tout d'un coup, les autres se mettaient à fonctionner comme eux. Et là où ils pouvaient être un peu dans l'écart à la norme, ils devenaient la norme.
Ouais, donc il y a eu autant de vécu qu'il y a de personnalité et aussi de formes de maladies neuroévolutives. Oui. Et la particularité aussi, c'est que cette crise a été rythmée par différentes mesures qui souvent ont été décrites d'injonctions paradoxales et qui peuvent constituer un contexte démentiel pour beaucoup et a conduit à des situations inédites. Est-ce que le terme est approprié, le terme démentiel? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces injonctions dites paradoxales?
Démentiel, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Oui, il y a eu des injonctions paradoxales, effectivement. Alors je dirais que là, ça s'est peut-être vécu de façon plus acutisée en établissement. C'est vrai qu'en EHPAD, en USLD, ça a été particulièrement compliqué pour les personnes âgées qui sont accueillies. Elles ont été du jour au lendemain coupées de leur famille ou presque, ou du moins coupées d'un contact physique avec leur famille, parce que bien évidemment, dans la plupart des établissements, on a fait en sorte de mettre en place des systèmes qui leur permettaient de voir leur famille par le biais de Skype ou d'autres supports identiques. Mais malgré tout, elles ont été coupées d'un contact physique avec leur famille, et pour certaines d'entre elles, c'était vraiment ce qui était tout à fait important, de pouvoir maintenir ce contact. Après, voilà, on a eu des directives un peu paradoxales qui étaient en même temps de préserver les personnes, mais de les mettre à l'abri. Et des fois, de les mettre à l'abri de façon forte. C'est-à-dire de les empêcher de sortir de leur chambre. Enfin, on est là dans une aberration de système, dans le sens où maintenir des personnes en chambre sans leur permettre d'en sortir, c'est les faire mourir à petit feu. Donc on essaye de les protéger d'un côté de la maladie, mais de l'autre on les fait mourir d'autre chose, qui est de l'isolement, qui est effectivement d'une rupture totale avec leur famille, et ça c'est absolument catastrophique. Donc il y a eu effectivement une gestion des risques qui a été du côté du sécuritaire, plus que du côté d'une perception un peu raisonnable de ce qui pouvait se faire, qui était déjà de laisser juger les établissements par eux-mêmes, de ce qu'il était possible de faire par rapport à la réalité architecturale locale, par rapport à ce que les personnes étaient en capacité de comprendre, par exemple par rapport au port du masque ou pas, et où il fallait qu'il y ait des ajustements, je dirais, personne à personne, qui n'ont pas été faits. Le problème, c'est que ça a été amené pour tout le monde pareil, comme nous au premier confinement, hein. Ça a été pour tout le monde pareil, sans trop de distinction. Et c'est là qu'a été le problème, c'est-à-dire que ça n'a pas été suffisamment souple pour permettre d'apporter, au fond, des réponses personnalisées, là aussi, à chaque personne.
Ouais, tout à fait. Vous faites une excellente transition pour la troisième question que j'avais pour vous. Pour le virus Covid-19, comme pour chaque épidémie, c'est posé la question de déceler son éventuel effet d'âge, c'est-à-dire la prise en considération de l'âge des personnes comme facteur explicatif de la gravité des cas. Et en fait, dès l'émergence de ce virus, les personnes âgées ont été identifiées comme la tranche de population la plus à risque. Le virus, ainsi décrit, présentait dans l'imaginaire collectif un danger pour l'ensemble des personnes âgées, indépendamment de leur état de santé. Et ils ont tous été inclus dans cette catégorie de personnes vulnérables. Selon vous, est-ce que cette gestion de crise a pu mettre en lumière la notion d'âgisme, que je vais vous demander de définir brièvement? Et est-ce qu'on peut considérer que les personnes âgées sont toutes fragiles et vulnérables, et donc à mettre sous cloche, entre guillemets?
Alors, ça c'est un article que j'ai écrit il y a déjà quelques années, faut-il mettre les vieux sous cloche? Et ça renvoie à cette question-là, c'est-à-dire que déjà, avant la crise sanitaire, il y avait cette perception de la personne âgée comme proche de la mort, et la mort s'angoisse, donc comme à protéger, et des fois à surprotéger. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les personnes âgées sont fragile ou vulnérable. Fragile, c'est plutôt le terme médical. C'est-à-dire que la gériatrie nous a amené cette dimension, ce concept, si on peut dire ainsi, de fragilité, qui est un petit peu un faux concept. C'est-à-dire qu'on considère que, grosso modo, toutes les personnes âgées de plus de 80-85 ans sont fragiles. Comme ça, c'est fait. Alors que non, on a des personnes de 90 ans qui sont bien moins fragiles que des personnes de 70. Donc c'est un peu mettre tout le monde sous la même égide, d'une certaine façon. Après, il y a la question de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est être vulnérable à quelque chose d'extérieur à soi-même. La fragilité est beaucoup plus intrinsèque. Bon, le virus peut rendre les personnes âgées plus vulnérables, effectivement. Ça vient de l'extérieur. Elles sont plus vulnérables au virus. Mais en même temps, ce qu'on a vu, c'est que les personnes âgées étaient parmi celles, évidemment, qui prenaient le moins de risques. Moi, je connais beaucoup de personnes âgées qui se sont auto-confinées, effectivement, dans cette circonstance, parce que c'était pour elles ce qu'elles pensaient le mieux et qu'elles ont évité effectivement les contacts avec les petits-enfants d'elles-mêmes, qu'elles ont porté le masque correctement d'elles-mêmes dès qu'on a eu des masques. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas plus vulnérables que les autres à ce niveau-là. Elles se sont adaptées. Et donc, le problème là aussi, c'est que la voie publique s'est exprimée de façon effectivement à stigmatiser encore une fois les personnes âgées comme étant les plus fragiles, et donc celles qui peuvent les protéger, y compris contre leur gré. Et c'est là qu'il est le problème, c'est que l'on dénie à la personne âgée la possibilité non seulement de prendre ses risques, mais de poser ses choix. C'est-à-dire qu'une personne de 75 ou de 80 ans qui dit « Ok, j'accueille mes petits-enfants, je vais faire en sorte de porter le masque, de mettre en place tous les gestes barrières possibles et nécessaires pour les accueillir. Mais moi, ce qui est important, c'est que je puisse les avoir un repas, un après-midi, avec moi. Pourquoi est-ce qu'on irait lui dire non? Je dirais même presque de quel droit? Ce sont des personnes adultes, majeures, vaccinées. Elles prennent un risque. Mais c'est un risque qui est complètement calculé. On n'irait pas penser la chose de la même façon pour une personne de 50 ans. Et encore une fois, ce sont les personnes âgées que l'on va effectivement quelque part infantiliser, en disant pour elles ce qu'il faut, c'est ça, un confinement strict, pas de contact avec les enfants, les petits-enfants, etc. Ou dans le cadre des EHPAD, pas sortir de leur chambre, pas sortir de leur service, etc., etc. Y compris si c'est délétère, parce que évidemment que ça l'est. Parce qu'on a vu des personnes âgées, effectivement, s'étioler un peu, se désoler, socialiser, entrer dans des problématiques dans lesquelles elles n'étaient pas, du fait qu'on les mette face à des injonctions, paradoxales ou pas, hein, des injonctions tout court, qui étaient juste invivables, et où on ne leur laissait pas la possibilité de choisir pour elles-mêmes, ce qui, ça, est quelque part un peu insupportable.
Moi, c'était mon sujet de mémoire, et vraiment, j'étais sensible aux personnes âgées, mais c'est là que je me suis vraiment rendu compte de l'âgisme qui était en fait normalisé dans notre société.
Ah, mais complètement, et bien au-delà de ce que l'on pense les uns les autres. C'est-à-dire que quand on étudie ça d'un petit peu près, on se rend compte effectivement que l'on est tous pris dans ce travers des représentations et qu'il y a du travail à faire.
Et comment est-ce qu'on pourrait travailler sur ces représentations aujourd'hui?
Eh bien, c'est une très bonne question. C'est très complexe.
Déjà, en en parlant ici.
Ouais, non, mais très, très complexe dans le sens où on se rend compte aujourd'hui que... Dès le presque le plus jeune âge, dès l'âge de 5 ans, 7 ans, les enfants commencent à avoir déjà des représentations sur les personnes âgées. Donc c'est très tôt dans la vie, j'ai envie de dire, qu'il faudrait intervenir pour qu'on ne rentre pas dans ces représentations, qui sont des représentations anciennes. Hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas depuis 20 ans, c'est bien plus ancien que ça. On est baigné par ces représentations et du coup en sortir, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est faire un travail contre nous-mêmes d'une certaine façon. C'est lutter contre ces représentations sur la vieillesse. C'est lutter contre l'âgisme qu'il faut faire. C'est même pas se rééduquer à la limite, c'est lutter contre. Et c'est pas évident parce que spontanément, on a tendance à aller vers la protection de l'âgé. On a tendance à aller vers l'idée effectivement que les personnes âgées sont automatiquement fragiles ou qu'elles ne comprennent pas le monde. Alors, il y a eu des expériences qui ont été faites comme ça où... On appelait un monsieur de chez Orange, il y avait un jeune de 20 ans qui appelait un monsieur de chez Orange pour lui dire « j'ai un problème technique » et une dame de 80 ans qui appelait un monsieur de chez Orange pour lui dire « j'ai des problèmes techniques » en tenant exactement les mêmes termes. Et ben le monsieur de chez Orange, par rapport au même problème technique, ne répondait pas du tout avec le même vocabulaire à une personne de 20 ans et à une personne de 80 ans. C'est très ancré, ça nous baigne dedans. Donc c'est compliqué d'une certaine façon de sortir de ces représentations-là. C'est un peu un travail de tous les jours.
Et ce que je trouve paradoxal, c'est que, au final, ce sera l'avenir de chacun d'entre nous. On va tous finir par devenir une personne âgée. Et on ne voudrait pas être traité de la manière ou vu de cette manière-là.
C'est clair, et c'est là où c'est tout à fait extraordinaire. Je vais donner juste un exemple d'une de mes patientes qui a 87 ans. Elle est venue me voir au départ en me disant « Monsieur Ballot, j'ai un problème. Je me vois d'une certaine façon et les autres me voient d'une façon qui ne me représente pas. » Et tout le travail que l'on a pu faire au fil du temps entre nous, ça a été de réconcilier un petit peu les deux et surtout de lui dire « mais surtout ne bougez pas ». C'est une dame qui est à 87 ans encore en relative bonne forme, qui surtout a gardé toutes ses capacités intellectuelles, et on n'arrête pas de lui dire « mais toi de toute façon tu changeras jamais, toi de toute façon, etc. » Et ça devenait insupportable pour elle, parce qu'elle dit « je change, je sens bien que je change, mais j'ai pas le droit de changer, mais je représente quelque chose que je ne suis plus ». Et au fond, elle se met en permanence en défense par rapport à ça, elle dit « moi je suis quelqu'un de normal, moi je veux juste continuer à vivre ma vie de façon autonome », et elle me dit « mes enfants, ils n'arrêtent pas de me dire « mais de quoi t'as besoin ?» Et moi je leur réponds « mais j'ai besoin de rien ». Et ça leur est insupportable, mes enfants. Où on voit que, d'une certaine façon, effectivement, pour vieillir autonome, il faut vieillir contre. Il faut être un peu 68 heures sur les bords. Il faut dire, non, moi, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas sur mon autonomie, je ne lâcherai pas sur les choix que je pose, qui sont les miens. Alors, évidemment, c'est plus compliqué hein, quand on a une maladie neurodégénérative, parce qu'à un moment donné, ça devient plus dur. Mais ben, avec des maladies neurodégénératives, il y a des personnes qui arrivent longtemps à dire « tatatat, c'est moi qui décide pour moi-même ». Et ça, c'est drôlement important. Et il faut que les personnes âgées aussi, elles-mêmes, ne se glissent pas, je dirais, dans cette posture de dépendance, qui est une posture un peu sociétale, mais qui n'est pas forcément la bonne. On peut être âgé et autonome.
Tout à fait. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Merci à Pierre-Yves Malot, merci Anna pour cet entretien riche d'enseignements qui nous invite à des questionnements éthiques sur la place des personnes âgées dans notre société. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire d'autre, Anna ?
Alors, en plus des mesures que Pierre-Yves Malot a évoquées, une autre mesure a particulièrement retenu notre attention, qui n'a pas été sans incidence en termes d'accès et de santé pour les personnes touchées par des maladies neuroévolutives ou pour les personnes âgées. Nous avons tous connu ces mesures qui changent tout le temps et parfois plusieurs fois par jour en fonction de qui prend la parole et de l'endroit où l'on se trouve géographiquement. Ces rebondissements nous ont tous désorientés à titre individuel et nous ne pouvons qu'imaginer comment cela a pu être vécu par des personnes ayant des maladies neuroévolutives ou des troubles cognitifs. Pour illustrer cette idée, nous pouvons prendre d'abord le cas de l'obligation de posséder une attestation pour sortir lors des périodes de confinement. Cette attestation peut bien entendu être recopiée à la main, mais faut-il encore avoir un modèle dans un journal papier, à la télévision ou en appelant un proche ? Mais qu'en est-il des autres personnes ? Afin d'en savoir plus sur cette question, j'ai eu l'occasion dans le cadre de mon enquête de m'entretenir avec une personne qui travaille au numéro vert dédié au virus Covid-19. Ce dernier témoignait de la difficulté des personnes âgées pour se la procurer et appelait donc ce numéro afin qu'on leur dise que l'attestation, ils pouvaient passer 15 à 30 minutes avec des personnes pour qu'elles puissent y accéder. De plus, les attestations étaient d'ailleurs au début principalement accessibles en ligne, ce qui supposait d'une part un accès au numérique, donc soit un ordinateur ou une tablette, une connexion Internet, alors que 10% des ménages n'ont pas accès à Internet, et un savoir-faire, c'est-à-dire savoir aller sur un site, consulter une bonne information. Et c'est un savoir-faire que tout le monde n'a pas. Et en faisant des recherches, j'ai appris que cette situation avait un nom, c'est l'électronisme, c'est-à-dire l'illettrisme, version informatique. Et une étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques révèle que 38% des usagers ne maîtrisaient pas correctement l'informatique. Des situations qui rendent compliqué l'accès aux nombreuses ressources officielles et informations disponibles sur Internet. Et c'est ce qu'on appelle la fracture numérique. D'autre part, cette mesure supposait également la possibilité de pouvoir remplir son attestation soi-même ou la retranscrire à la main sur une feuille libre. Rien de plus simple, me direz-vous, qui avez su vous adapter à ces nouvelles mesures. Puis il y a les autres, ceux qui, pour différentes raisons, n'ont jamais eu et n'auront jamais accès à ces attestations à cause de troubles moteurs ou de troubles cognitifs. Il a fallu attendre la mobilisation du milieu associatif pour obtenir des attestations de déplacement faciles à lire et à comprendre et donc accessibles à tous. De plus, les dispositions concernant les déplacements dérogatoires n'ont cessé d'évoluer avec à chaque fois une nouvelle attestation en vigueur. Le jeune homme a partagé avec moi le désarroi de certaines personnes qui appelaient face aux mesures et recommandations qui évoluaient rapidement. Il a également décrit des situations de solitude extrême, voire même des situations de détresse psychologique.
Merci Anna pour ces précisions et illustrations. On fait une pause musicale avec The National, le titre Anyone's Ghost, et on se retrouve après sur Plan B, l'émission du Bistrot et Moirenais, diffusée sur Canal B.
Live underwater more than a
C'était The National avec le titre Anyone's Ghost. Vous êtes sur Canal B, vous écoutez Plan B, l'émission du Bistrot et moi Rennais. On retrouve Alina Jean-Ximenuet pour sa chronique Rien pour nous, sans nous.
Et maintenant, la rubrique d'Alina Jean-Ximenuet, rien pour nous sans nous.
Bonjour Alina.
Bonjour.
Concernant les situations que vous avez pu observer chez les ambassadeurs sur ce contexte Covid, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors oui, au début du confinement, nous avons observé chez les ambassadeurs, jeunes malades de moins de 65 ans, l'effet d'apaisement. Moins de bruit, des circulations, de précipitations, télétravail et du coup la présence à la maison des aidants encore en activité. Tout cela avait finalement un effet bénéfique pour les jeunes malades. Malheureusement, au fil du temps, après cette première période d'apaisement, chez eux aussi les difficultés liées au contexte sanitaire se sont renforcées. Car pour la majorité des personnes malades et leurs aidants, comme l'a souligné précédemment Amandine Bénard, cette première période de confinement entre mars et mai 2020 était particulièrement difficile. D'ailleurs, dans un article publié en mai 2020 sur son site, l'association France Alzheimer a alerté les autorités sur cette non-prise en compte des personnes en situation de handicap cognitif. Vous pouvez toujours retrouver cet article sur le site. Il est basé sur les observations des professionnels et des bénévoles de l'association et souligne plusieurs problématiques. Premièrement, pendant le premier confinement, les aidants à domicile ont été rapidement épuisés, physiquement et moralement. Ils n'ont plus eu accès aux accueils de jour ou aux plateformes de répit qui étaient fermées. Résultat, les aidants ont assumé pendant 2 semaines tous les rôles, donc ceux autrefois confiés à des professionnels ou à des proches. Deuxième point, les personnes malades, elles, ne comprenaient pas toujours la situation, ni pourquoi il était préférable pour les personnes vulnérables de rester encore chez soi. De nombreuses personnes malades étaient dans l'incapacité de mémoriser le geste barrière ou d'en comprendre le sens. Cette réalité a poussé des couples aidants-aidés à domicile à s'isoler encore plus, de peur d'emmener le virus à la maison. Des personnes malades et des aidants ont également connu des situations ubuesques en dehors de leur domicile. Certaines se sont vues refuser l'accès à des magasins parce qu'il était interdit d'y rentrer à deux en même temps. D'autres ont été interpellés par la police pour non-respect du confinement. Ces observations ont alors fait redouter que l'isolement, l'absence d'activité physique adaptée ou des stimulations cognitives pouvaient avoir de lourdes conséquences chez les personnes malades comme l'apathie ou manque de motivation, une accélération du déclin cognitif, une perte de repères dans l'espace et dans le temps ou encore des troubles du comportement. Pour conclure cet article, Joël Jaouen, président de l'Union nationale France Alzheimer et malades apparentés, a lancé un cri d'alarme pour souligner, je cite 2 points, ouvrez les guillemets, « Malgré les efforts et les alertes répétées auprès du ministre de la Santé, 1,2 million de personnes malades et plus de 2 millions de proches aidants étaient les grands oubliés de cette crise majeure. »
Concrètement, Alina, qu'avez-vous pu observer du côté des gestes du quotidien pour les ambassadeurs ?
Plusieurs témoignages d'aidants relatent la difficulté à mémoriser le geste barrière ou d'en comprendre le sens. Bien évidemment, cela concerne également le port du masque. Lors du premier déconfinement, le Bistrot Mémoire Rennais a pu relancer ses actions collectives avec des ambassadeurs, à partir de juin 2020. Nous avons rapidement constaté les difficultés liées au port de masque. Les ambassadeurs ayant des troubles praxiques avaient des difficultés à le mettre ou à le maintenir sur le visage.
Juste une petite parenthèse, Amandine, sur les troubles praxiques, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Qu'est-ce que c'est, rapidement ?
Alors, pour définir les troubles praxiques, C'est en fait une série d'actions motrices qui sont commandées par le cerveau, qui sont orientées vers un but bien déterminé. Alors par exemple, pour que ça soit un petit peu plus clair, quand vous voulez le matin mettre votre gilet, il faut déjà savoir si vous allez le mettre en bas ou en haut, et dans quel sens vous allez le mettre, à l'envers, à l'endroit, il y a quand même un sens sur ce gilet. Il y a aussi le fait de savoir par quel endroit je vais rentrer mes bras dans les manches. Et une fois que j'ai enfin réussi à faire tout ça, il faut en plus que je ferme la fermeture jusqu'en haut. Donc c'est toute une série de mouvements, mais qui en fait est très compliqué pour les personnes qui ont des troubles praxiques pour pouvoir réussir à la fin à mettre son gilet correctement.
Des gestes simples de la vie quotidienne comme se coiffer, s'habiller qui peuvent en effet devenir très compliqués à réaliser. Comment accompagner ou limiter ces difficultés, Amandine? Si vous aviez une suggestion, c'est de faire à la place ou c'est d'indiquer oralement la planification des tâches?
Il faut toujours accompagner, aider étape par étape en fait, c'est ça. La solution qu'on peut dire, c'est de simplifier les choses au maximum en faisant étape par étape. Donc on peut rester à côté de la personne et lui dire juste, tiens, ton gilet est ici, tu peux le commencer par le mettre en haut, tu mets tes manches. Enfin, étape par étape en fait, indiquer petit à petit et progressivement.
Guider et faire avec. Merci Amandine pour ces précisions. Alina, dites-nous en plus sur ces troubles praxiques et notamment au travers du port du masque qui a généré beaucoup de difficultés.
Oui, effectivement. Et nous avons également observé que la communication avec la bouche cachée par le masque était plus compliquée. Certains n'étaient donc pas en capacité de respecter l'obligation de le porter. Cela n'a pas été sans impact lors de nos sorties ou nos déplacements en transport en commun. L'appel de France Alzheimer pour adapter les mesures restrictives aux malades présentant des troubles cognitifs devenait urgent et essentiel pour continuer les actions auprès de nos bénéficiaires.
Cet appel a-t-il été entendu?
Oui, Samia. En juillet 2020, un décret a permis aux médecins de délivrer un certificat médical dispensant les personnes concernées du port du masque. Écoutons ensemble des extraits du témoignage de Frédéric, aidant d'une jeune malade qui a rapidement saisi cette opportunité pour s'adapter aux difficultés rencontrées dans le quotidien du couple.
Bah en fait, la difficulté, c'est que quand tu sors avec Assina et que tu lui mets le masque, elle ne comprend pas d'une pourquoi elle a le masque. T'as beau lui expliquer le Covid, c'est pas quelque chose pour elle qui est évident. Enfin, la pandémie, c'est très flou, enfin, elle ne comprend pas le principe en gros. Et après, une fois qu'elle a le masque sur le nez, le souci, c'est qu'elle le retire régulièrement, quoi. Elle passe son temps à mettre le doigt sur le nez et puis à baisser le masque, parce que pour elle, c'est pas naturel. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est plus délétère qu'autre chose, parce que mettre les mains sur le masque, elle est censée te protéger, elle a toujours la main qui se balade sur le nez, sur le masque, elle le retire, elle le monte, donc... Enfin, c'est pire qu'autre chose, quoi. Donc,
vous avez réussi à contourner cette difficulté dans la première période de Covid?
Bah, du coup, moi, j'avais regardé sur Internet, vu qu'il y avait des dispositions spéciales pour les handicapés, et vu qu'on sait qu'il y a des certificats médicaux qui peuvent te dispenser de certains ports ou autres, le port de la ceinture de sécurité en voiture, etc., si t'es malade. Donc, j'ai regardé sur Internet et je me dis que c'était possible de demander... à l'hôpital, un certificat médical qui la dispenserait du port du masque dans la rue.
C'est ce que tu as fait ?
Dans les espaces publics, rues, magasins, etc. Et donc, c'est ce que j'ai fait, quoi. J'étais à Pontchaillou lors d'un rendez-vous qu'on avait pour elle. Mais ça tombait bien, c'était dans la semaine qui suivait mes recherches sur Internet. Donc, j'ai demandé au médecin et elle m'a fait une dispense de port pour Assina de masque. Comme quoi, c'était effectivement plus délétère d'avoir le masque que de ne pas avoir de masque. Pour son psyché et pour même le microbe lui-même, quoi. Le toucher par rapport au microbe.
Donc aujourd'hui, quand vous sortez ensemble, Assina ne porte pas de masque?
Non.
Comment ça se passe à l'extérieur?
Quand Colombier était ouvert, pour le coup, on y avait été une fois, elle n'avait pas de masque. Il y avait
le centre commercial.
Le centre commercial, il y a les pompiers qui étaient venus, qui faisaient un peu de contrôle, qui avaient demandé. Je leur avais présenté le papier, puis ils nous avaient laissé tranquille, quoi.
Il le connaissait, le papier ?
Non, il a lu, il a regardé, puis il a dit, bah, c'est bon.
Mm-hmm. Pour vous, le fait de pouvoir effectivement dispenser, c'était quelque chose qui était extrêmement utile et
bah, c'est utile, et puis de toute façon, tu marchais dans la rue 2 secondes avec elle, tu lui remettais, tu faisais 2 mètres, tu traversais, tu regardais quelque chose d'une demi-seconde, tu te retournais et elle l'avait enlevé, donc ça devenait impossible à gérer de toute façon, quoi. Quand on est vraiment dans des espaces... Je veux dire, clos, vraiment un supermarché où il y a du monde, j'essaye quand même de lui en mettre un. Pour essayer de. Enfin, en se disant que je la préserve, mais du coup, il faut surveiller tout le temps, quoi. Enfin,
D'accord. Tu as quand même en toi cette arrière-pensée qu'il faut protéger.
Qu'il faudrait la protéger plus, quoi, dans certains lieux, quoi.
Donc
vraiment, quand on rentre dans un supermarché et que je vois que c'est bondé, bah là, je lui mets et j'essaye de lui faire tenir.
Merci Frédéric.
Je remercie Frédéric pour ce témoignage. Il montre également que cette mesure était donc très utile, mais pas vraiment adaptée aux malades plus vulnérables, à qui, pour le protéger, le port du masque était fortement conseillé.
Vous le dites, hein, Anina, et Frédéric aussi, hein, cette question du port du masque divise. Hein. D'un côté, il protège la personne et son entourage, et de l'autre, il majore les difficultés. Alors, quelles sont les autres alternatives pour limiter ce problème de compréhension et de communication qui existe et dont on a connaissance aujourd'hui ?
L'usage de masques faciaux transparents à destination des aidants ou du personnel soignant. Masques également inclusifs pour d'autres types de handicaps. Dans l'article « La maladie d'Alzheimer et le masque faciaux en temps de Covid-19 », publié le 5 janvier 2021 dans le journal de la maladie d'Alzheimer, cette solution est expliquée et avancée par le neurologue. Les auteurs nous y expliquent que le masque majore les difficultés de reconnaissance faciale ou des compréhensions de leurs interlocuteurs par des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ces difficultés sont majorées encore plus lorsque les masques faciaux s'ajoutent à la distanciation physique. Ainsi, le masque faciaux transparent pourrait soulager la souffrance de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, désemparés en présence des professionnels ou de leurs proches dont le masque cache le visage. Sur le terrain, ces observations ont été prises en compte par certains professionnels dès la fin d'année 2020. D'ailleurs, les associations France Alzheimer de Nouvelle-Aquitaine ont pris l'initiative de commander des masques transparents pour les distribuer à leurs familles adhérentes et aux bénévoles qui visitent les EHPAD.
Merci Alina. Anna, notre Géo trouve tout. Où les trouver ces masques à fenêtres transparents ou inclusifs et à quel prix ?
Chers amis, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous pouvez vous procurer les masques pour le prix de 20,80€ les deux masques directement sur le site www.masqueinclusif.com. Vous y trouverez la taille qui vous convient, du XS, du S ou du M, et le choisir avec lanière ou élastique. Malheureusement, ce masque n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, mais permet de maintenir le lien, au-delà des mots, avec votre plus beau sourire.
Merci Anna, on termine l'émission avec une petite note de légèreté, grâce à vous. Plan B, c'est terminé. Merci à toutes et à tous. Si vous souhaitez poursuivre ou réagir à l'émission, nous proposer d'autres thèmes, une adresse planb@bistromémoirerennais.com. Merci à Morgane Soularue pour sa patience et pour la technique, le collectif du Bistro et Moi Rennais, les ambassadeurs, leurs aidants, et Valeray pour sa playlist qui nous a fait voyager à Hawaï. On se retrouve dans un mois. Ne manquez pas ce rendez-vous, à très bientôt. Et en attendant, on vous laisse avec Admiral Freebie, le titre « Look at what love has done ». À bientôt.
Everybody in this town is falling apart. Sensational demands and trouble with the heart. Look at what love's done. And I'm still singing after everybody's gone. I can already smell the acid on my microphone. Look at what look at what love has done. The stars are not needed now. Turn out everyone. Pack up the moon and shoot out the sun. Look at what love has done. Look at what love has done. Feeling that it's later than it seems.
that I'm trying to put my memory back into dreams. Look at what love has done. And I don't want to be another fool, craving for affection. In everybody's teardrops, I can still see my own reflection. Look at what love has done. Just look at what love has done. There's always someone to step on, so you can rise a little higher. Go ahead, ignore all the warnings while you lose your fire. Look at what love has done. Look at what love has done.
Plan B, l'émission du Bistrot Mémoire Rennais, c'est terminé.
You're the big, big, big.